trois tiers. Il y a un tiers de gens qui... c'est dans la lignée de Jean-Luc Benhamias, hein, l'animateur national, c'est Jean-Luc Benhamias, et le vice-président du MoDem. Et c'est pas une tendance, c'est pas une association, c'est pas un mouvement politique, c'est un objet un peu non identifié sur le plan politique. C'est entre le plan politique et le plan associatif. Et grosso modo, vous retrouvez dans ce mouvement-là, un tiers des gens viennent du MoDem. Donc c'est parce qu'ils soutiennent l'action de Benhamias, c'est parce que...
Allô ?
Non, c'est la Fédération Écologie et Démocratie, elle est présidée par Jean-Luc Benhamias, vice-président du MoDem, mais elle regroupe très largement. Donc il y a un tiers des gens, des adhérents, sont effectivement des militants du MoDem qui suivent Benhamias. Un tiers sont des gens qui sont encartés nulle part et qui ont de la sympathie pour la charte et pour les valeurs de la Fédé. Qui partagent ces objectifs, et un tiers sont des gens qui sont encartés à ELV les Verts, la coopérative, enfin des choses comme ça, voilà.
D'accord.
Voilà, ça doit être le photographe, je pense. Hein. Bonjour.
Salut, Michel.
Oui, c'est lui.
Écoute, je suis super désolée. Excuse-moi, je remplace Olivier, qui ne pouvait finalement pas venir.
Et... Bonjour, Écologie et Démocratie, moi je suis au MoDem et je suis le délégué départemental de la Fédé.
D'accord.
Et il s'est passé un truc marrant, il y a eu une éclosion spontanée du prix Édredon d'or.
C'est Dominique, hein,
Bézu, ouais. Je vous donne ma carte. Il y a eu une espèce de mouvement spontané, quelque chose qu'on n'attendait pas au sein de la fédération. Et il y a eu cette proposition de créer le prix Édredon d'or. C'est vraiment une apparition 2013. Et le prix est destiné à récompenser une femme politique ou un homme politique qui se défile et qui cache le boulot sous un édredon, qui cache le boulot à faire sous un édredon. Voilà.
Et qui a eu le prix cette année ?
Alors, qui a eu le prix cette année, avec à qui je vais avoir le plaisir de le remettre ? Devant la presse et les photographes trempés réunis. Je vous laisse mes coordonnées pro et ça, c'est les coordonnées associatives, l'association de soutien au peuple d'Alsace. Donc, cette année, le prix Édredon d'or, et d'or, on l'a écrit D-O-R-T, bien sûr, hein, est décerné à l'unanimité. Je vais le faire là officiellement. C'est dommage que faire 300 par minute, franchement, c'était bien ça. Est décerné à l'unanimité. À Fabienne Keller, à quatre candidats à la mairie de Strasbourg, Fabienne Keller, François Loss, Roland Ries et Alain Fontanelle. Ben, ils sont destinataires du prix. Ah ben, bien sûr que si, puisqu'on leur remet. Alors en leur absence, je vais quand même symboliquement le remettre. Il est symbolisé par une plume d'or. Voilà, une plume d'or pour un édredon d'or. C'est le prix de l'édredon d'or que je remets à Fabienne Keller, au nom de la Fédé, à Fabienne Keller, Roland Ries, Alain Fontanelle et François Loss. Voilà, et en quelques mots, maintenant je vais vous expliquer comment on est arrivé là, pourquoi. Alors, il y a aussi une question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on allait pérenniser ce prix et le remettre à nouveau en 2014 ? Puisque cette année, c'est la toute première édition, la réponse est oui, sous réserve de trouver des candidats d'une aussi grande valeur que cette année.
Vous êtes combien, la Fédé départementale ?
La question qui tue.
Pardon, je ne voulais pas tout de suite.
Au sein du jury qui a travaillé, qui a délivré à l'unanimité, c'est les gens vraiment impliqués, les gens qui bossent, il y en a une dizaine, les autres, il y a on doit être de sympathisants et de membres, on doit être une trentaine en tout, quelque chose comme ça. Allez, mais c'est pas le nombre qui compte, c'est la valeur des idées. Voilà. Ouais. Donc le propos de. C'était aussi d'expliquer qu'est-ce qui récompense ce prix, enfin pourquoi ce prix, qu'est-ce qui récompense. Donc vous me dites quand vous voulez faire la photo, hein, je me plante. Hein. Vous n'allez pas la faire ? Oh, si, ouais, faites-moi une. Ça. Même si vous ne la publiez pas, vous me l'envoyez. Ouais, mais on tente le coup, on tente le coup. C'est sympa, ça. 50 euros, ouais. Moi, je vais la rentabiliser, ma. C'est une artiste strasbourgeoise, en plus, qui l'a fait. Elle a plein de talents. Mais là, elle n'a pas pu s'exprimer vraiment.
La photo sera publiée sur la feuille des choux.
Je te remercie. Je te remercie.
Si j'avais fumé, franchement.
Super. Donc, bon, l'objet de la discussion, c'est de vous expliquer comment c'est venu et pourquoi l'attribuer à ces quatre candidats à la mairie. Je dis bien quatre candidats à la mairie, alors qu'Alain Fontanelle, a priori, n'est pas candidat immédiat à la mairie.
Ou alors, vous nous filez un scoop.
Ouais, je vous file un scoop. Ouais. Je fais du mot noir. Il y avait Pasquier qui devait venir aussi avec Strasse TV. Et je sais pas si va venir. C'est à propos du CGO, du Grand Contournement Ouest. Ces quatre candidats-là ont en commun d'avoir la même position sur le Grand Contournement Ouest. Et c'est pour ça qu'ils ont été désignés à l'unanimité sur le prix Édouard d'Or.
Alors, la position en question est encore le refus de la complexité.
Le constat qu'on fait nous, c'est de dire que sur le grand contournement ouest, il y a un véritable problème avec une série de données du problème, et que ce problème-là, il est éminemment complexe. Il est profondément complexe. Et qu'un problème extrêmement complexe, ces quatre candidats-là apportent une solution qui n'est même pas simple, qui est à peine simpliste. Et celle du grand contournement ouest. Bon, le grand contournement ouest, c'est une question qui vient essayer de résoudre un problème qui présente un certain nombre de caractéristiques qui sont complexes. Premièrement, il y a une asphyxie. Profonde en matière de circulation de Strasbourg et de sa région, qui se traduit tous les jours, matin et soir, mais qui se traduit aussi certaines périodes de l'année de façon encore plus dramatique. Par exemple, cet été, on a eu plus de 3 semaines de bouchons permanents au mois d'août dans toute la ville, parce qu'on avait le cumul de l'effet habituel, plus le cumul des effets des travaux un peu partout en Alsace, y compris autour de Strasbourg. Donc, les Strasbourgeois qui étaient là cet été, ont dégusté et les automobilistes ont dégusté. Mais les automobilistes et les camionnettes et les entreprises dégustent comme ça tous les jours, matin et soir. C'est la première donne du problème, elle est fondamentale. Il y a une asphyxie complète de cette ville, matin et soir, tous les jours de la semaine, et parfois beaucoup plus. Il faut aussi noter qu'il y a des moments où ça roule. Hein. Le deuxième problème, c'est que ça représente un coût en termes de santé publique extrêmement important. 225 morts par an, 6 mois d'espérance de vie en moins tous les 30 ans, tout ce que je raconte c'est des rapports archi connus, un taux de
225. À la Montréal, ils disent 210 hier.
Yeah. Ouais. Dans mon papier, alors là, revue de presse.
Il y a du brouillard, donc ça.
Mais c'est les mêmes, ils ont dit 225. Ils exagèrent, franchement, je connais M. Parker. 225, ils ont dit il y a 3 mois.
J'ai le souvenir comme ça, parce que j'ai dit ça hier.
Tous les 30 ans, 6 mois d'espérance de vie, ou 5-7 en moins. Un taux de particules fines qui fait qu'il y a des effets sur la santé en termes neurologiques, de cancer, de tout ce que vous voulez, enfin qui sont invraisemblables. Donc c'est un bilan en termes de santé publique qui est catastrophique. Alors il y a d'autres effets évidemment à ce bouchon permanent, mais ça c'est une donne du problème. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a avec le CGO? On a une consommation de terres agricoles de 100 hectares. Alors, qu'on fasse 3 voies ou qu'on fasse 2 voies et qu'on en garde une troisième pour plus tard, ou ça change strictement rien au film, en sachant qu'en Alsace, en dehors du CGO, tous les ans on perd 600 hectares de terres. Tous les ans on perd 600 hectares de terres en Alsace. Ouais, mais bien sûr. Un vrai problème écologique avec toute une série de composantes. La consommation des terres, c'en est une. L'urbanisation, c'en est une autre. Et évidemment, l'aspect économique du côté des paysans, mais surtout l'aspect d'aménagement, en termes d'aménagement du territoire. On est en train de se diriger tout droit vers un schéma la hollandaise. En Hollande, vous avez un maillage extrêmement important d'autoroutes. Alors ça, des autoroutes, il y en a partout. Et des coins de campagne tout petits entre des quadrilatères d'autoroutes. Et toute une partie du pays est organisée comme ça en Hollande. Vraiment, et l'Alsace, qui est une région petite, très bornée par des réalités géographiques, elle se laisse bouffer par l'urbanisation, par les zones d'activité industrielle, les zones d'activité commerciale, les routes et les autoroutes, sur un schéma absolument pas maîtrisé. Merci. Hein.
Salut Michel.
J'exagère, hein, si je lui demande après la photo. Ouais, j'exagère.
Je
super, c'est sympa ça. Merci.
C'est pas garanti.
On est à la confluence d'un enjeu, enfin, d'un enjeu économique d'un côté et d'un enjeu écologique de l'autre. Et vraiment, ça fait boum. Les deux se rencontrent et sont apparemment totalement opposés. J'y reviens tout de suite après, hein, sur cette alternative, sur cette mauvaise alternative entre deux choix. Mais c'est une question drôlement intéressante, parce que la réalité, elle est comme ça aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on organise cette conférence de presse. Je voudrais bien savoir, moi, quel est le sujet qui n'est pas autour de nous un sujet complexe. Et ça, c'est un sujet complexe. Voilà. Et un sujet complexe, ça appelle un vrai boulot. Et ça appelle un vrai boulot, en l'occurrence, la politique. Et ce boulot, il n'est pas fait et il est caché sous les drones. Voilà ce qui se passe. Et ça a des conséquences, et j'y reviendrai aussi, et ça a, y compris des conséquences politiques, en termes électoraux. En clair, ça veut dire que les abstentions, les votes blancs, les votes nuls, les votes aux extrêmes sont aussi le fruit de cette impuissance politique. Mais j'y reviens. Hein. Alors, devant cette espèce d'apparent conflit entre un enjeu économique très fort et qu'on ne peut pas nier, qui est absolument important, il y avait Nostalgie, là, il m'interviewait tout à l'heure à la radio, il me disait « Mais qu'est-ce que vous dites aux automobilistes ?» Je dis « Mais les automobilistes sont dans une situation insupportable. C'est insupportable de passer toute sa journée coincée dans une bagnole, enfin, une partie de deux fois plus de trajet normal, en gros, hein, c'est ça les études, parce qu'on va travailler, parce qu'on est obligé de prendre sa bagnole à ce moment-là. Je ne vois pas qui le fait par plaisir entre 7h et 9h30 et entre 16h30 et 19h. Peu. Il y a beaucoup de trafic. Alors, ils sont dans une situation insupportable et les forces vives, les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les industriels qui ont besoin d'utiliser sont dans une situation insupportable qui a un coût phénoménal. C'est légitime. Et de l'autre côté, la préoccupation écologique, en termes de terre, en termes d'espace, en termes de schéma régional, elle est parfaitement légitime aussi. Donc on a deux préoccupations légitimes qui apparemment viennent se heurter. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on fait ? On commande un XM rapport. Alors, il faut déjà noter au préalable que des rapports, c'est pas ce qui manque. Et il y a eu entre autres le rapport TTK, qui n'est pas dans la lignée du rapport récemment présenté, mais qui est un rapport et qui est un rapport qui peut compter ça. Alors, sur le rapport qui a été commandé, il faut quand même vous savoir un truc marrant, c'est qu'il est fait par les ingénieurs ex-pont et chaussée, ex-équipement. Aujourd'hui, équipement et développement durable, et des ingénieurs généraux, donc c'est la crème des crèmes des ingénieurs de l'État. Mais quand on a affaire aux ingénieurs, enfin, bon, quand on sait un peu comment ils fonctionnent, et en particulier dans ces corps d'État-là, tout repose dans la commande. C'est la manière dont la commande est rédigée qui produit la qualité du rapport. Et là, on n'a pas demandé à deux hauts fonctionnaires de se pencher sur un problème de nature politique, parce que moi je dis que c'est un problème de nature politique quand on a des enjeux apparemment opposés comme ça. On a demandé à deux hauts fonctionnaires de répondre à une commande très précise. Elle est rédigée par le préfet et elle vaut son pesant de cacahuètes, la commande. Parce que le préfet dit, bon, je ne vais pas vous... mais en gros, il dit aux ingénieurs de aux ingénieurs généraux, il dit, étudiez la manière dont le CGO répondrait à une partie de la problématique. C'est ça ce qu'il dit le préfet. Et les ingénieurs, lorsque vous dites étudiez la manière dont le CGO répondrait, ben, ils étudient la manière dont le CGO répondrait. Ils ne font strictement rien d'autre. Et, entre autres, ils n'étudient pas des solutions alternatives comme... alors, on aurait pu mettre une autoroute sur l'autre, doubler en hauteur. On aurait pu enterrer. On aurait pu entourer l'autoroute qui traverse Strasbourg. Moi, je pensais au départ qu'on pouvait la mettre sous cloche. Y a un tas de solutions comme ça. Les ingénieurs ne s'occupent pas du tout d'étudier des solutions alternatives. Ils ne s'occupent pas du tout d'organiser un débat ou de collecter des suggestions, des informations ailleurs. Ils répondent à une commande précise. Et la commande était très précise, formulée par le préfet. Très précise. C'était en quoi est-ce que le CGO répond ou répond pas à une partie de la problématique. Et donc ils répondent à ça. Mais lorsqu'ils présentent, et personne ne le relève, Perreux et l'autre, je ne sais plus comment ils s'appellent, lorsqu'ils présentent quand même, ils ont une petite phrase qui est vachement... ils le disent publiquement à la presse réunie, ils disent « on a fait ce qu'on nous a demandé de faire ». Ils ne disent pas « on a étudié le problème dans toute son... » Un ingénieur, c'est quelqu'un à qui vous n'allez pas le brider comme ça. Si vous voulez un boulot d'ingénieur, il faut lui dire « voilà un problème, qu'est-ce que tu as à me proposer comme solution ?» Et vous le faites avec trois équipes différentes. Mais jamais on bosse comme ça avec des ingénieurs, surtout pas des ingénieurs généraux des ponts et chaussées. Ça, on bosse comme ça quand on veut, à l'avance, mettre la poussière sous le tapis ou la problématique sous les drones. Voilà. Alors ça, c'est pour le rapport. Alors, une alternative qui est complètement naze. C'est pour ça qu'on le donne ce prix. Parce que c'est un choix binaire. C'est pour ou contre le CGO. Mais est-ce qu'on peut être pour ou contre la pluie ? Pour ou contre le beau temps ? Est-ce qu'on est pour la peste ou contre le choléra ? Est-ce que c'est une manière de travailler, ça ? Est-ce que c'est une manière de travailler que de dire je suis pour ou contre le CGO ? D'autant plus qu'on sait à l'avance, et c'est ça qui est absolument, absolument fou dans cette affaire-là, on sait à l'avance qu'en adoptant cette posture, aujourd'hui c'est trop tard, les politiques qui adoptent cette posture s'engage de façon certaine vers l'impasse. Parce qu'ils vont se heurter naturellement à une opposition radicale, ce qui pose mal la question. Forcément, ils auront une mauvaise réponse. Et l'opposition, elle va se jouer sur un terme binaire, pour ou contre le CGO. Et le résultat des courses, c'est qu'on va avoir le type de situation de BHL ou Notre-Dame-des-Landes, avec une cristallisation. C'est comme ça que ça va se passer. Et ça se terminera en autre boudin. Et de toute façon, il n'y aura que des perdants dans cette affaire. D'autant plus que les mêmes études, y compris celles qui viennent d'être sorties, disent d'ores et déjà maintenant que de toute façon, ça n'apporte une réponse que de façon très parcellaire et provisoire dans le temps, parce qu'au bout d'un moment, il y aura un effet entonnoir, un effet siphon qui fera que CGO ou pas CGO, ce sera à nouveau bloqué. Donc on marche complètement sur la tête. Dans cette affaire, on marche sur la tête. Et je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire le CGO, hein. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la manière de poser les problèmes dans une situation complexe, elle produit le résultat. Le résultat, là, c'est un résultat binaire. Pour ou contre la pluie. Voilà. Pour ou contre le mauvais temps. Pour la peste, contre le choléra. Bon. Ça amène forcément à une impasse inévitable. On ne pourra pas faire le CGO dans ces conditions, avec la manière dont le problème est posé. Et donc, ça va amener à l'impuissance politique. Parce qu'on va se retrouver avec un pouvoir politique qui ne pourra plus trancher, à supposer qu'il fallait trancher, et surtout qu'il ne pourra plus concilier. Et des démarches comme ça, il y en a un paquet en France. Il y en a un paquet. On vient d'en vivre une avec le Conseil d'Alsace. Et chaque fois, c'est un coup politique. Et c'est ça qui est absolument invraisemblable. C'est que le coup politique... Parce que là, on est face à des politiques qui ne font pas leur boulot. C'est vrai que c'est compliqué, merde, de traiter un problème compliqué. C'est compliqué de sortir un plat brûlant du four. On peut se brûler. C'est pareil. C'est un boulot compliqué. C'est un boulot compliqué. De répondre à un problème complexe, c'est compliqué. Mais quand on ne le fait pas, quand on cache le boulot sous les redons, eh ben on arrive à l'impuissance politique, et l'impuissance politique, elle est sanctionnée, elle est sanctionnée par des votes blancs. Les gens qui vont voter en disant ce que vous faites ne m'intéresse ni les uns ni les autres. Elle est sanctionnée par des abstentions, des gens qui disent je m'en fous. Elle est sanctionnée par des votes extrêmes, des gens qui disent puisque c'est comme ça, je vote pour une apparence de pouvoir fort ou une apparence de solution forte. Voilà. Et ça, c'est le fruit. Ça mène à cette façon de faire, cette façon de cacher, cette façon de ne pas traiter la complexité, ça amène à un coup politique. Et voilà, donc il y a évidemment d'autres voies qui existent. Aujourd'hui, ces autres voies, ben, elles sont balisées par la manière dont ça a été traité jusqu'à présent. On ne peut plus faire comme si le dossier était vierge. Il n'est pas. Il est tel qu'on est devant une solution binaire, pour ou contre. Et je le redis une dernière fois, comme si on pouvait être contre, pour ou contre la pluie, ou pour ou contre le beau temps, pour la peste ou contre le choléra. Donc, Fabienne Keller, François Loos, Roland Ries et Alain Fontanel, qui sont tous les quatre candidats à la mairie de Strasbourg, et qui ont tous les quatre adopté cette position du CDE, méritent vraiment cette attribution unanime de l'édredon d'or, symbolisée par cette belle plume. Donc c'est bien Marie-Ange Jean, et on est bien content de leur attribuer.